enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je lisais récemment un livre d'un missionnaire et son épouse qui voyagent partout dans le monde. Ce sont des évangélistes. Et puis, Dieu les amène partout dans le monde. Ils ont une œuvre gigantesque aux Indes. Et puis, ils vont aussi dans les églises locales, bien sûr. Ils ont un bon ministère aussi dans les églises locales pour encourager et fortifier le corps de Christ. Mais dans leur voyage, et surtout dans leur quand ils vont faire du ministère dans les églises locales, ils ont constaté la même chose, pas mal partout où ils vont. Parce que les gens viennent les rencontrer à la fin du message, viennent les voir et ils ont constaté que les gens, les croyants, ils sont tous à la recherche de quelque chose. Il y a plusieurs de nous peut-être qui sommes à la recherche de quelque chose. Nous avons besoin d'une réponse dans notre vie. Des fois, ce sont des choses plus urgentes que d'autres. Mais ces gens-là sont à la recherche de quelque chose. Ils ont beau avoir des problèmes qui sont différents. Ils ont beau vivre des situations qui sont tout à fait différentes, parce que quand même, vous savez que même si on est chrétien, des fois, on vit pas toujours des circonstances agréables. On peut vivre des situations, des fois, qui diffèrent les unes des autres. Mais ces gens-là avaient une chose en commun, c'est qu'ils voulaient savoir. Ils étaient vraiment en quête de savoir ce qu'est la vraie spiritualité. Ils voulaient savoir, ils veulent savoir ce qu'est la vraie puissance de Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai été un peu surprise, parce que là, on parle de croyants. On dirait forcément que les gens, en principe, on devrait savoir ce qu'est la véritable spiritualité. Et on devrait aussi avoir déjà vu la puissance de Dieu. Mais ces gens-là étaient vraiment en quête de ces choses-là. Donc, on pourrait dire qu'un grand pourcentage de ce que l'on voit dans les églises d'aujourd'hui, et quand je parle des églises, je ne parle pas d'aucune dénomination, je ne parle pas d'une église locale en particulier, que ce soit très clair ça, mais je parle de l'église en général. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui seraient théâtrales, qui est superficielle, pour que les chrétiens se posent ces questions-là. C'est quoi la véritable spiritualité? J'ai faim de voir la puissance de Dieu. Alors, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs choses qui... C'est pas tout à fait... Faut ajuster des choses. Donc, la plupart des chrétiens ne réalisent pas ça. Alors, beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui se dit aujourd'hui dans les églises, et même au nom du Seigneur, c'est pas la vraie chose. Mais les croyants sont tellement au désespoir de voir Dieu à l'œuvre, et de ressentir sa présence, d'expérimenter la présence de Dieu, que bon, on est prêt à croire à peu près n'importe quoi. Il y a un tel désespoir chez le peuple de Dieu, qu'on est prêt à avaler à peu près n'importe quoi, qu'on nous dit, voici la véritable puissance, voici la vérité. Alors, il faut faire attention. C'est quand même, hein, c'est étonnant. Quand j'ai lu ça, vraiment, je vous dis, j'étais étonnée de voir que à quel point le peuple de Dieu, des fois, peut être dans l'ignorance. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle, on commence des fois avec les nouvelles qui sont un peu plus sombres. Des fois, mes enfants, il y avait quelque chose à me dire, puis je disais, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ben c'est un peu des deux. Il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Je disais, ben, commence par la mauvaise nouvelle, puis après ça, je veux savoir la bonne nouvelle. Fait que là, on fait ça vite, vite avec les mauvaises nouvelles pour entendre la bonne nouvelle, parce qu'on veut tous entendre des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Donc, la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, plus ou moins sombre, c'est que Dieu est en train de préparer, il est après élever une armée de moissonneurs pour aller partout dans le monde avec la véritable puissance de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? En effet. Parce que vous savez que l'Évangile, quand elle est bien annoncée, l'Évangile, quand elle est bien prêchée, ça se voit. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose, c'est pas forcément une doctrine, où ce n'est pas forcément des vérités qu'on peut assister. Mais la véritable évangile, c'est quelque chose qui se voit, parce qu'il y a la puissance derrière cet évangile-là. Donc, comme je dis, le Seigneur Dieu est en train d'élever des soldats, une marche de soldats qui n'inclura pas seulement les missionnaires, et les ministres dites professionnels. Êtes-vous conscient de ça? Merci Seigneur pour les missionnaires qui ont mis leur vie sur l'autel pour aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci pour les ministres professionnels aussi parce que Dieu a donné à l'Église des dons. Ces choses-là ne sont pas dédaignées. Mais vous savez que ça va inclure, mais là, ça va inclure tout croyant qui veut se joindre au rang de l'armée céleste. Alors, si vous cherchez du travail, vous êtes à la bonne place ce matin. Le Seigneur veut vous engager, veut vous embaucher. Alors, on va voir cette puissance-là, on va voir la véritable puissance. Ça va être dans les supermarchés qu'on va voir ça. Ça va être dans les parcs. Ça va être dans la cour d'école, au travail, même en prenant une marche. Vous allez dire, ben là, moi, je pensais que ça se passait à l'Église, ces choses-là. Oui, ça passe dans l'Église. Il devrait se passer des manifestations, il devrait se passer des choses. On devrait voir et ressentir la puissance de Dieu. Mais vous savez que ça n'a pas été donné pour nous, ça a été donné pour bénir les autres. Alors, on va trouver ça dans les supermarchés. Vous allez être en train de faire votre emplette à un moment donné. Bon, peu importe l'épicerie où vous allez, je ne vais pas faire de propagande ici ou d'élever un marché plus que l'autre. Vous allez après faire l'épicerie, puis soudainement, c'est comme le Seigneur va toucher votre cœur pour faire quelque chose. Ça va être dans le parc, ça va être dans la cour d'école, les jeunes, les enfants, parce qu'on sait que Dieu est en train d'élever une armée puissante parmi la jeunesse, parmi les enfants, parce qu'il veut les utiliser puissamment pour rejoindre ceux qu'on ne peut pas rejoindre. Parce que vous savez que chaque catégorie d'âge, on dit que souvent que les couples là, vont rejoindre des couples, les ados vont rejoindre les ados, les enfants et ainsi de suite. Les personnes plus âgées vont rejoindre souvent, vont avoir des contacts avec des gens de leur âge. Alors, donc, dans la cour d'école, il va y avoir des mouvements puissants du Seigneur, même en prenant une marche. Cette armée de croyants, cette armée céleste, si on veut, va avoir des choses précises en tête. Ils vont se poser des questions qui sont très précises. C'est important, des fois, de se questionner, parce que, des fois, le choix de notre carrière fait que, il va y avoir des conséquences. Si on veut suivre une certaine carrière, on sait qu'à un moment donné, ça l'exige le cégep et l'université. Et puis, dépendant du choix de carrière qu'on a fait, ça va affecter aussi le reste de nos choix. Ça peut être un déménagement à l'extérieur. Si la faculté dans la ville où je demeure ne se spécialise pas dans la branche où je vais aller, alors je vais être obligée, forcément, de déménager ailleurs et ainsi de suite. Alors, c'est important de se questionner, c'est important d'avoir des questions en tête. Mais là, on parle de cette armée céleste. Ils vont avoir des choses, des questions précises en tête. Ils vont se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? C'est une bonne question, hein? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On va se poser aussi la question, quand Jésus reviendra-t-il? Voilà une question importante à se poser. Il y a des gens qui l'ont peut-être posée, mais ils ont voulu la répondre aussi. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a seulement le Père qui connaît l'heure, le jour, la seconde, quand Jésus va revenir. Alors, c'est correct de poser la question, mais il ne faut pas la répondre. Parce qu'on n'aura jamais la bonne réponse. Ça ne nous a pas été donné, ni à nous, même pas le Fils connaît le jour. C'est le Père seul qui connaît l'heure précise du retour de Jésus. Alors, on peut se poser la question quand même, quand Jésus reviendra-t-il? Combien de temps nous reste-t-il avant son retour? Parce qu'on sait que son retour est imminent. On est ici comme des pèlerins sur la terre. On n'est pas ici, ce n'est pas une demeure permanente que nous avons ici-bas. Même si on a des belles maisons, même si on a plein de belles choses, nous sommes de passage dans ce monde. Notre cité n'est pas d'ici-bas, elle est d'en haut. Alors, on anticipe le retour du Seigneur Jésus, mais il faut se poser la question, combien de temps nous reste-t-il? Parce qu'il y a plein de choses à faire avant son retour. On n'est pas là juste à soupirer après son retour, puis attendre après son retour. On veut faire les choses qu'on doit faire pour amener son retour. Parce qu'on sait que Jésus ne reviendra pas tant que toute nation, toute tribu, toute langue va avoir entendu au moins une fois l'Évangile. Alors, si on veut hâter le retour du Seigneur Jésus, il faut être à l'écoute, il faut être au travail. Il faut travailler pour avancer son royaume, pour ramener le roi des princes de gloire. Alors, ces gens-là vont se poser ces questions-là. Quand Jésus revient-il? Combien de temps reste-t-il? On va être tellement impressionnés dans nos cœurs qu'on va même regarder et on va dire, cette personne-là qui me croise sur le trottoir, cette personne-là va-t-elle avoir une autre... l'occasion d'entendre l'Évangile. Cette voiture-là, des fois, on est à une lumière rouge, on est à un arrêt, on voit nos tours remplis, une petite famille, bon, le père, la mère, puis les enfants en arrière, puis on voit des fois bébé à bord. Faites attention de ne pas les cogner, hein, parce que là, ils s'affichent qu'ils ont un bébé à bord. La vie est importante. Dieu nous a donné la vie, puis elle est précieuse. Il veut qu'on fasse attention à notre vie, puis la vie des autres aussi. Mais on va se poser cette question-là. Ces gens-là, dans cette voiture-là, dans cette auto-là, est-ce qu'ils vont avoir l'occasion d'entendre l'Évangile avant que Jésus revienne? Vont-ils avoir l'opportunité d'entendre le message que Jésus sauve encore aujourd'hui avant le retour du Seigneur? Donc, brièvement, on peut dire qu'il va y avoir une telle compassion qui va se lever dans cette armée de croyants qui vont découvrir la vraie puissance. Là, je vais dire quelque chose qui peut être un peu délicat, mais je vais oser dire pareil. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la vraie puissance de Dieu, puis pour voir la manifestation de l'Esprit à l'œuvre, on pense que, bon, il faut faire un vacarme à l'Église. Plus on crie, on va crier à toute tête, on sait c'est qui va lever la voix le plus fort, qui va danser, qui va taper des mains le plus fort, qui va en mettre, là. J'ai rien contre ça. C'est correct. Le Seigneur veut qu'on se réjouisse de sa présence parce qu'il nous a sauvés, nous a délivrés en vue des jours meilleurs, en vue d'une nouvelle vie. Alors, c'est correct de taper des mains. C'est correct de danser. C'est correct de pousser des cris de joie. Mais c'est pas ça forcément qui est la puissance de, cette puissance-là duquel on cherche et que les chrétiens même sont à la recherche. Non, cette armée de croyants vont réaliser que de Dieu, ça englobe le fait de rejoindre ceux qui sont perdus. Voilà la vraie puissance. Si quelqu'un ici veut avoir la vraie puissance de Dieu, souciez-vous des âmes perdues, comme si c'était vous. Il y a des gens qui se sont souciés de nous dans le passé. Ils ont prié pour nous. Des bons parents qui ont prié pour leurs enfants qui s'étaient égarés dans le monde. La prière a ramené les enfants. C'est mon cas. Si je n'avais pas eu des parents fidèles, des parents qui priaient, je serais pas ici ce matin, je vous l'assure. Alors, c'est important. C'est important qu'on se mette à la place de ces gens-là. On était autrefois de leur nombre. Et ce qu'on méritait, c'était pas moins que la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, on se situe d'où on vient. Ça va nous aider à avoir de la compassion pour ceux qui ne sont pas encore rendus là. C'est pré-chrétien dans notre ville. La salle devrait être pleine ici à craquer ce matin de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est à nous d'aller puis aller les chercher. Ils ne viendront pas. C'est rare que quelqu'un va arriver ici, à la porte, la vie comblée, puis « Ah oui, c'est bien ici, vous vous réunissez. Moi, j'ai assez le goût, là. » Ça peut arriver. Mais en général, ça ne se passera pas comme ça. C'est nous. On doit aller les chercher parce qu'ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Alors, vous savez que Jésus avait cette compassion-là dans son cœur. Il était animé. Partout où on lit dans les Évangiles, Jésus était ému de compassion. Quand cette compassion-là se levait dans son cœur, il se produisait des choses. Alors, si on veut vraiment avoir cette touche céleste, on veut goûter à cette vraie puissance qui est réelle, ça va prendre la compassion dans nos cœurs. La compassion les uns pour les autres, mais la compassion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Donc, en tant que chrétien, vous savez, on devrait regarder de plus près le ministère de Jésus. On ne prendra pas le temps de le faire ce matin, parce que je vous assure que vous n'êtes pas rentré à la maison pour dîner. Parce que Jésus a vécu toute une vie de sainteté, de pureté, de puissance. Alors, je vous encourage à la maison de lire davantage les Évangiles. C'est beau de lire les Épîtres, et c'est important de lire les Épîtres, parce que ce sont des lettres écrites à l'Église, ça nous appartient, ça nous donne nos droits, notre autorité, notre identité. Mais c'est important aussi, des fois, de retourner aux Évangiles, de lire les Évangiles. Pourquoi? Parce que ça nous parle de Jésus, ça nous démontre de près son ministère, ainsi que sa vie. Pourquoi est-ce que ces choses-là sont si importantes? Bien, parce qu'on est supposé d'être comme lui. Nous sommes supposés lui ressembler. Alors, si on veut savoir de quoi le maître a l'air, si on veut savoir de comment notre maître, comment Jésus opérait sur cette terre, c'est important de lire les Évangiles pour découvrir ces choses-là. Nous sommes appelés chrétiens, après tout. Combien de chrétiens y a-t-il ce matin ici? Levez votre main. Je veux voir les mains des chrétiens. C'est pas une question piège, là. J'essaie pas de vous en piéger. Je veux juste voir que les chrétiens, gloire à Dieu. Presque toutes les mains se sont levées ce matin. Mais vous savez que d'être chrétien, c'est que nous sommes des personnes comme Christ. Nous sommes de petits Christ. Il y a peut-être des gens qui vont être offensés par ça, dire, hey, wow, là, ça, c'est fort. Là, on met le pied sur la pédale au fond. Non, la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, nous sommes de petits Christ, faits à son image, à sa ressemblance, avec sa nature divine en nous, capables de faire les œuvres du Maître. Parce que vous savez que Jésus n'a jamais donné un ordre ou un commandement qu'on n'est pas capable d'accomplir. Jésus n'a jamais dit « va » qu'on n'est pas capable. Il n'a jamais dit « fais » qu'on n'est pas capable de faire. Il n'a jamais dit « parle » puis qu'il ne nous donnera pas les paroles de vie. Alors, nous sommes vraiment comme de petits Christ. Alors, c'est ça que c'est vraiment d'être chrétien, c'est d'être comme Christ. Alors, dans Actes, au chapitre 11, c'est le verset 26, je vous demanderai pas de tourner. Si jamais j'ai besoin de que vous référiez, je vais vous le dire. Je vais lire surtout la fin du verset. C'est Actes 11, 26. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés, devinez quoi? Chrétiens! Oui, oui, ils étaient des disciples. Ils étaient des disciplinés. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple sinon une personne qui est disciplinée? Quelqu'un qui suit le maître de près pour apprendre, pour voir, pour agir comme lui. Et voilà qu'on voit que ces disciples-là furent appelés chrétiens. Donc, ils étaient des comme Christ. On peut dire qu'ils étaient de petits Christ. Gloire à Dieu. Pourquoi étaient-ils comme Christ? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Pourquoi étaient-ils comme Christ? Parce qu'ils étaient comme lui. C'est pour ça qu'ils ont été appelés des chrétiens. Parce qu'ils étaient comme Christ. Comment étaient-ils comme Christ? Ils étaient occupés, comme Christ, des choses de leur Père. On se souvient que Jésus était occupé que des choses de son Père. Alors, ces petits Christ-là, ces croyants-là, ces chrétiens-là, étaient occupés des choses du Père. Ils étaient préoccupés, occupés de l'avancement du royaume de Dieu. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, ils vivaient pour celui qui les a sauvés, rachetés. Alors, on voit que d'être chrétien, c'est beaucoup plus que porter une étiquette religieuse. C'est facile de dire, oh, je suis chrétien, je suis chrétienne, combien d'années? Ah, oh, ça a 30 ans, ça a 20 ans, ça a 10 ans. Puis on est porté à s'étiqueter. C'est plus que d'être dans un culte religieux le matin. C'est plus que d'aller à l'église, d'être chrétien. D'être chrétien, c'est d'avoir la vie de Dieu en nous. C'est d'avoir la vie de Christ en nous. C'est pas moins que ça d'être chrétien. Alors, on voit que ces premiers chrétiens, les premiers disciples, les premiers chrétiens qui ont été appelés à Antioche pour la première fois, chrétiens, ils ont fait un impact de leur temps sur les riches, autant comme sur les pauvres. Il n'y avait pas un rang social qui dédaignait plus qu'un autre. Ils allaient vers les très riches, ils allaient vers les démunis. Leur message, il y avait un message qui était tellement puissant que ce message-là a fait que des hommes et des femmes ont réévalué leur direction et leur but. Des gens prospèrent. Ils entendaient le message, ça, ils réévaluaient la direction. C'est quoi la direction pour ma vie? C'est quoi mes buts? Je m'aperçois d'après eux autres, je suis perdue. Même si j'aurais toutes les richesses au monde, même si j'aurais toute la popularité au monde, même si j'aurais les gens à mes pieds, parce qu'ils parlaient même à des rois, ils parlaient à des dignitaires de leur temps. Ils présentaient Jésus, ils ont présenté un Christ ressuscité. Voilà la puissance. Ils se sont pas contentés de montrer un Jésus qui était à la croix. Oui, gloire à Dieu qui était à la croix. Il a versé son sang précieux pour vous et moi. Il est allé dans le tombeau 3 jours. Mais il est ressuscité en gloire. Il est assis à la droite du Père. Alors, voilà le Jésus qu'ils ont prêché. Un Jésus victorieux. Un Jésus ressuscité. Comme je disais, ils ont été vers les chefs religieux de leur temps. C'est pas évident. Ils allaient dans les synagogues. Il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, des docteurs de la loi, des hommes de la loi, ils pouvaient citer par cœur chaque iota, chaque chose. Mais eux autres vivaient par la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Ils n'avaient pas peur, puis ils allaient vers ces gens-là avec une telle hardiesse. Ils ont été dans leur Jérusalem, ils ont été dans leur Samarie. Tout comme Jésus, il allait de village en village pour rencontrer les besoins de tous. Il allait dans les endroits les plus isolés. Il allait dans les endroits où il y avait des malades, où il y avait de la lèpre, où il y avait de la paralysie, où il y avait des esprits démoniaques. Il n'y avait pas un besoin pour eux qui était trop grand. On parle toujours des croyants. On parle toujours des chrétiens, des petits Christ. Voilà ce que nous sommes supposés reproduire aussi aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas un besoin qui était trop grand pour eux. Il n'y avait pas une personne qui était trop méchante pour recevoir la vérité, pour être changée. Aucun besoin n'était au-dessus de la puissance miraculeuse de leur Dieu. On voit de l'hardiesse, n'est-ce pas? On voit de l'assurance, on voit de l'hardiesse. C'était pas en eux, c'était dans leur Jésus ressuscité. Alors, il y avait cette hardiesse-là. Jésus vivait à travers eux. C'est pour ça qu'Antioche, ils ont été appelés pour la première fois chrétiens. Parce que Jésus vivait sa vie à travers eux et à travers leurs convertis. Est-ce qu'il demanderait moins aujourd'hui à son Église? Est-ce que Jésus demanderait moins aujourd'hui à nous qui nous disons chrétiens? On s'appelle chrétiens. Il veut vivre sa vie à travers de nous. Il veut continuer son ministère. Il veut perpétuer son œuvre à travers nous, l'Église, à travers nous, les chrétiens. Le fait que Jésus est assis à la droite du Père, il n'a pas cessé son œuvre. Là, il est là en tant qu'intercesseur, il est là en tant qu'avocat. Mais il n'a pas terminé son œuvre sur la terre, mais il l'a fait à travers nous, à travers vous. Donc, vos mains sont supposées être les mains de Jésus. Votre bouche, c'est la bouche du Seigneur Jésus pour prononcer les paroles de vie à ceux qui en ont besoin. Donc, si Jésus vit à travers chacun de vous, vous pouvez dire avec fierté, « Je suis appelée chrétien, chrétienne. » Alléluia. On voit que dans Actes 13, le verset 49, que la parole du Seigneur se répandit dans tout le pays. Donc, ils étaient à l'œuvre, ces gars-là. Ils travaillaient fort. Ils connaissaient leurs buts, leurs objectifs. Il n'y avait rien d'autre qui comptait pour eux. Ils allaient partout. Et la parole du Seigneur s'est répandue dans tout le pays. Maintenant, dans Actes 14, le verset 27, je vous encourage à la maison de lire pour avoir le contexte de ce qu'on parle ce matin, de lire le chapitre 14 des Actes au complet, parce que ça va vous donner quand même une bonne vision, si on peut dire, du verset prochain. Parce que moi, je vais lire le verset 27, mais il peut être un peu nébuleux pour vous si vous n'avez pas le contexte. Alors, le verset 27 nous dit qu'après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, juste pour se situer un petit peu, parce que moi, je suis pas une théologienne et je suis pas ce style-là, je suis pas tellement forte dans l'enseignement, c'est pas mon domaine, c'est plus la prédication. Mais juste pour faire un petit résumé, on voit que c'est après une campagne d'évangélisation, ils ont été dans plusieurs villes. Les Juifs ont suscité le peuple. Quand vous allez lire, vous allez voir, il y avait eu des miracles, il y avait eu plein de choses belles qui se sont passées. Et là, les Juifs ont suscité le peuple, ils ont tourné le peuple contre les chrétiens. Il y a eu une grande persécution, et même que l'apôtre Paul était lapidé, on le traînait hors de la ville, on le prenait pour mort. Alors les apôtres, les disciples, les chrétiens ont convoqué l'Église pour se rassurer, se raffermir entre eux, prier. On sait qu'on est en bonne compagnie avec les nôtres, n'est-ce pas? Des fois, on peut vivre des difficultés, on peut vivre une tristesse, on peut vivre un besoin. C'est important qu'on va réunir l'Église, on va réunir des gens, puis on peut partager notre cœur parce qu'on est en famille. Alors, ces gens-là ont réuni l'Église, puis ils ont démontré tout ce que le Seigneur avait fait à travers d'eux. Puis comment il y avait, lui, Jésus, lui, le Père éternel, il a ouvert la porte aux nations. Il a ouvert la porte de la foi pour les nations. Donc, c'est après une grande campagne d'évangélisation, vous lirez en contexte à la maison. Donc, Jésus qui est notre modèle, parce qu'on revient à lui, parce qu'on est supposé lui ressembler, on est fait à son image, on doit reproduire ce que Jésus était, ce qu'il est toujours. Alors, il est notre modèle. Vous savez qu'il y avait une chose qui distinguait le ministère de Jésus plus que toute autre chose. Quoi qu'il était dans les cinq dons du ministère, quoi qu'il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les boiteux, il a fait entendre les sourds. Il n'y a pas une chose que le Seigneur Jésus ne faisait pas que du bien. Il a fait que du bien. Mais il y avait une chose en particulier qui distinguait le ministère de Jésus. C'était le fait qu'il n'y avait rien de plus important pour lui que d'accomplir la volonté de son Père. C'est pour ça que tout le suivait. C'est pour ça que les yeux des aveugles s'ouvraient. C'est pour ça que les sourds entendaient, c'est pour ça que les boiteux marchaient, c'est pour ça que les lépreux étaient guéris dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien pour lui de plus important. Sa priorité, la chose la plus importante pour lui, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Jean 4, 34 nous dit « ma nourriture ». Il n'y a pas beaucoup de monde parmi l'Église aujourd'hui, même parmi nous, qu'on peut dire « ma nourriture ». Mais Jésus était capable de dire « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Alors, quand on va se nourrir de la volonté de Dieu, on va être capable d'accomplir son œuvre aussi. Voyez-vous, c'est ça qui était la puissance de Jésus. C'était parce qu'il se nourrissait littéralement de la volonté de son Père. Il se reniait à lui-même continuellement, à ses désirs, à ce qu'il voulait, même à Gethsémani, où il a dû dire « cette coupe peut s'éloigner de moi ». Mais pas ma volonté, mais la tienne. Il était toujours en quête de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, la puissance l'accompagnait aussi. ça peut être tentant des fois pour nous de dire, « Ah oui, mais là, écoute un peu, là, Jésus, là, ben, c'est le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, sûr et certain qu'il était le Fils de Dieu, puis il l'est toujours. Et puis lui, il est né d'une vierge, là. Fait que juste là, vous savez, ça le rend différent de nous autres. Il doit pas avoir bien du monde, c'est qu'ils sont nés d'une vierge. Je crois pas. Alors, voyez-vous, ça le met, juste ça, ça le met dans une catégorie à part. Ça le met différent de nous, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, Église, n'oubliez pas les chrétiens, que le même Saint-Esprit qui a couvert Marie lors de la conception de Jésus, il est venu habiter en vous et en moi quand on a accepté Jésus. C'est le même Saint-Esprit, la même puissance. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas un frère jumeau. Il n'y a qu'un Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit-là qui a couvert de sa puissance Marie pour concevoir Jésus le Messie, il est venu habiter en chacun de nous. Donc, on pourrait dire, ce ne serait pas erroné de dire que notre nouvelle naissance est aussi miraculeuse que fut celle de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'on était destiné à l'enfer. Le seul endroit, la seule direction pour nous, c'était l'enfer pour l'éternité. Mais quand on a accepté le Seigneur Jésus, quand on est né de nouveau, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ni par la chair, c'est ni par le bras de l'homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Alors notre conception, on est conçu d'en haut par un Père d'amour, par une conception miraculeuse. Quand notre esprit a pris vie, c'est le même Saint-Esprit qui est venu donner la vie, le même esprit qui est venu sur Marie. Alors, on peut dire que, de cette façon-là, notre nouvelle naissance, elle est vraiment miraculeuse. Aussi miraculeuse que fut la conception de Jésus, n'est-ce pas? C'est bon de voir des réalités de la parole de Dieu qui peuvent enrichir nos vies, nous aider à l'apprécier davantage. Alors, nous sommes créés en son image, à semblance. Et nous aussi, nous sommes haïs de Satan, tout comme Jésus l'était. Voyez-vous, on a une chose en commun. Il est né miraculeusement, il était conçu miraculeusement, nous aussi. Nous avons été conçus et nous sommes nés miraculeusement. L'ennemi était contre lui. Dès le jour de la conception, il a essayé, il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'empêcher le Messie de venir sur la terre. Il a essayé de tout faire, quand il n'a pas pu empêcher ça, il a essayé de tout faire pour empêcher Jésus de faire son ministère, jusqu'à essayer d'atteindre sa vie physique. Mais Jésus disparaissait du milieu de la foule, puis on ne le retrouvait pas. Il ne devait pas mourir jusqu'à ce que le jour appointé où il devait mourir, parce qu'il avait un ministère à accomplir aussi. Alors, il était haï de Satan. Il était la cible de l'ennemi, tout comme nous le sommes. Plus nous voulons vivre pour Jésus, plus on veut lever haute la bannière, plus on veut le glorifier, plus on veut l'honorer dans nos vies, plus vous allez être la cible de l'ennemi. Mais ça ne devrait pas nous faire peur. On devrait être conscient, par contre, que l'ennemi, il n'est pas fou. Il est rusé, puis il est menteur. Puis il va essayer de mettre des bois dans les roues. Il va essayer de vous empêcher de rejoindre votre objectif. Il va essayer de fermer votre bouche pour ne pas témoigner. Il va essayer de vous faire peur. Mais on est vainqueurs. Jésus est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Mais tout comme il était haï de Satan, nous le sommes aussi. Alors, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il l'a envoyé pour acheter de l'ennemi. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors, on n'a aucune crainte. On n'a pas à craindre quoi que ce soit que l'ennemi pourrait essayer de mettre sur notre chemin, qui veut essayer de mettre les bois dans les roues pour nous empêcher d'avancer l'œuvre de Dieu. Il n'est pas capable si on le fait dans le nom de Jésus, avec la puissance de Jésus. Alors, quand on a cru en lui, quand on est devenu ses enfants, on est devenu ses fils et ses filles. Vous êtes, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, on devrait apprendre davantage à connaître le Maître, n'est-ce pas? Si on veut marcher comme lui, si on veut faire les œuvres qu'il a faites, on doit apprendre à le connaître davantage, connaître Jésus. C'est pour ça que c'est important de lire les évangiles, comme je vous ai dit au début. Donc, comment est-ce qu'on va le connaître davantage? En cultivant une relation personnelle avec lui, de l'adorer, de le louer, de se mettre dans la parole, dans la prière. On va découvrir davantage qui est Jésus. Il va devenir une personne personnelle pour vous. Ce ne sera pas juste un Dieu lointain dans le ciel, le bon Dieu, comme on a appris quand on était jeune, le petit Jésus de la crèche. Mais plus on va le connaître, plus notre relation personnelle, plus on va s'identifier avec lui, et il va s'identifier avec nous. Donc, Dieu est à la recherche aujourd'hui d'hommes et de femmes d'après son cœur. Comment est-ce qu'on va faire pour découvrir le cœur de Dieu? Parce qu'on se posait des questions au début. C'est quoi que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Combien de temps nous reste-t-il avant le retour du Seigneur Jésus? Et ainsi de suite. Donc, il est à la recherche d'hommes et de femmes qui sont d'après son cœur. Mais c'est quoi vraiment le cœur de Dieu, l'essence du cœur de Dieu? C'est la moisson. Ce sont les âmes perdues. Tout ce qui se fait dans l'Église, on pourrait dire, est secondaire. C'est pas inutile, c'est secondaire. Il y a une différence. On enseigne les enfants à l'école du dimanche pour qu'ils grandissent, pour qu'à leur tour deviennent des témoins fidèles. Pourquoi? Pour annoncer Jésus. On fait la même chose à la maison, on vient à l'église, on fait un centre de formation biblique, on donne des cours le dimanche matin, bâtir sur le roc, pour établir. Tout ce qui se fait dans l'église n'est pas être prêt à la légère. Ce sont des choses importantes, ce sont des choses que Dieu a initiées. Les visions des pasteurs, ce sont des visions qui sont importantes pour l'accomplir, pour couler là-dedans. Mais le point culminant de tout ça, ce sont les âmes perdues. Ça me donne quoi d'avoir un bagage à plus finir si je serais capable de citer la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, si je ne me soucie pas de ceux qui sont perdus? Alors, tout ce qu'on fait dans l'Église, tout ce qu'on apprend dans l'Église, le point culminant, c'est d'aller vers les perdus. Alors, voilà le cœur de Dieu. Dieu est à la recherche aujourd'hui de tel homme et de telle femme qui ont en vue la moisson. Dieu ne cherche pas la perfection. Combien de vous êtes contents que Dieu ne cherche pas la perfection? Moi, la première, parce que si Dieu serait à la recherche de la perfection, je ne serais pas ici ce matin. Quoique nous sommes parfaits en lui, quoique par imputation nous sommes justes, là, il ne faut pas partir avec ça, puis partir en peur, puis dire, ben là, c'est pas grave. Si je ne recherche pas la perfection, ben là, je peux rester comme je suis, me croiser les bras, me tourner les pouces, puis il me prendra comme je suis. Non, nous sommes parfaits, nous sommes saints en lui par imputation, mais je parle de notre marche quotidienne. A besoin d'être sanctifié. On a besoin de perfectionner notre sanctification. Parce que par imputation, nous sommes justes. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes aussi purs, nous sommes aussi blancs que le Fils. Dieu le Père nous aime autant qu'il aime son Fils. Alors par imputation, vous êtes saints, vous êtes saintes. On voit que dans les Épîtres, il s'adresse aux saints d'Éphèse, aux saints de... Ils étaient saints par imputation, ces gens-là. Ils n'avaient pas atteint la perfection quand on parle de la marche, notre marche. On doit sanctifier notre marche. On ne doit pas se satisfaire d'être médiocre. Puis dire, ben là, il m'aime. Ou comme Pasteur Ken va dire souvent, Dieu vous aime, mais vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Alors, ça l'amène, ça, de la sanctification dans nos vies. Mais Dieu est à la recherche, on pourrait dire, de la disponibilité. Avant même la perfection, avant même qu'il va regarder notre marche, parce que si on attend d'être rendu, on va être rendu au ciel avant d'avoir fait quoi que ce soit. Parce que notre marche, c'est chaque jour. Il y a toujours quelque chose à arranger, il y a toujours un ajustement, il y a toujours quelque chose à corriger. On doit toujours grandir, aller de gloire en gloire et de marcher dans la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas attendre d'être parfait parce qu'on ne fera jamais rien. Le retour du Seigneur va être venu, puis on va être encore. On va dire, ben là, je ne faisais rien, j'attendais d'être parfait. Fait que le Seigneur est à la recherche de quoi? La disponibilité. Alors, on pourrait se poser deux questions qui sont très importantes. Sommes-nous disponibles? Il cherche la disponibilité. Sommes-nous disponibles? Suis-je disponible? Sommes-nous voulants? Des fois, on peut être disponible et non voulant parce que, au début, on va, « Ah oui, me voici, Seigneur, prends tout, Seigneur. » Puis on est là au pied de l'autel, puis les mains, puis tout ça. Mais quand le Seigneur arrive vraiment après pour nous utiliser, « Ah, whoop, là, pas là-dedans, là. Wow, une minute, attends un peu, là, j'ai peur, là. Ça, c'est pas mon domaine, puis je comprends pas ça. » Puis non, non. Alors, sommes-nous disponibles et sommes-nous voulants aussi? Vous savez, quand Jésus il a appelé ses disciples, il n'a pas demandé des critères à pu finir. Ils n'ont pas eu besoin de sortir un CV à pu finir. Puis dire, ben là, c'est quoi que tu as fait? À quelle école tu as étudié? Quoi qu'on dénigre pas ces choses-là, l'éducation est importante. Plus on est éduqué, plus on a de... On peut avoir peut-être de l'influence aussi sur des gens. Alors, on dénigre pas l'éducation ici. Mais le critère, quand Jésus a choisi ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Suivez-moi. C'est pas compliqué, hein? Donc, ils n'ont pas eu besoin de sortir une brique, puis montrer les diplômes, puis de montrer tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils anticipaient de faire, tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Puis là, ils disent, ben alors retournez, puis quand tu auras fini ça, viens me... Puis il faut qu'il soit signé par tel en plus, emmène-moi tout ça, puis on verra. Non, il a dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Alors, ils voyaient, qu'est-ce qu'ils voyaient d'extraordinaire c'est chez... avec ces personnes-là? Des hommes qui mettaient leur filet, ils allaient à la pêche. Il devait sentir la morue, peut-être, puis la poisson, je ne sais pas s'il y avait de la morue là-bas, mais en tout cas, le poisson, ça devait sentir, imaginez l'eau salée, faisait chaud, il ne devait pas nécessairement sentir la meilleure des odeurs, il devait pas être d'eau spice à l'époque. Ah, qui sentait le poisson, ces gars-là, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais qu'est-ce que Jésus voyait chez eux de si spécial? Leur habilité de suivre le maître. Ils ont tout lâché. Ils n'ont pas dit, ben là, attends un petit peu, il faut que j'y pense comme il faut, peux-tu repasser la semaine prochaine à telle heure? Bon, en parlant à ma femme, moi, qu'est-ce qu'elle en pense? On va faire une réunion de famille, puis on va checker tout ça. Là, mais tu repars, je te donnerai une réponse. Ils ont lâché le filet, drette, là, ils ont tout lâché ça, puis ils ont suivi. Alors, le Seigneur Jésus cherchait leur disponibilité, leur habilité de suivre le maître. Ils n'ont pas questionné, ils ont parti, puis ils ont suivi. On sait que les chrétiens, à leur époque, étaient minoritaires. Même si l'Église du Bercail se multipliait à une vitesse, comme on voit rarement aujourd'hui, on sait que lors d'une prêche, il y a eu 3000 qui ont été baptisés d'un seul jour. Ça serait quand même assez bon pour Drummondville, ça, pour une journée, pour un départ, là. On prêche l'Évangile, puis on en baptise 3000 ici, là, dans un jour, ça serait bon. Donc, ils étaient minoritaires quand même de leur temps, même si l'Église se multipliait à une vitesse très accélérée. Pourquoi étaient-ils minoritaires? Ce n'était pas en nombre. On vient de dire qu'il y en avait 3000 dans un jour. Donc, ils n'étaient pas minoritaires en nombre, mais ils étaient minoritaires quand même. Parce que sur ce grand nombre de croyants, il y avait juste une minorité qui était prête à tout sacrifier pour voir le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie, premièrement, et dans le monde. Une minorité en travers d'une foule. Puis on dit, Jésus, je mets tout à tes pieds. Seigneur, je mets tout à tes pieds, je mets tous mes talents à tes pieds. Ils apportaient leur argent. On dit que dans les Actes des Apôtres, qu'il n'y avait rien commun. Ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs propriétés. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vendre votre maison aujourd'hui, là. Mais on est en train de voir, parce que les gens voulaient voir tellement le plan de Dieu s'accomplir. Donc, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, venaient, puis ils déposaient ça aux pieds des apôtres, puis c'était distribué selon les besoins. Alors, on voit quelle sorte d'engagement il y avait dans ces cœurs-là. Ils étaient prêts à tout donner, ils étaient prêts à tout sacrifier, leur vie. Ils n'avaient pas peur d'être méprisés, d'être persécutés pour le nom de Jésus. Ils n'avaient pas peur d'être emprisonnés. Ils n'avaient pas peur d'être battus de verge. On ne demande pas ces choses-là. On n'est pas prêts à appeler ces fléaux-là à venir sur nous. Gloire à Dieu si on peut en être épargné. Mais si un jour la persécution devrait venir, on ne devrait pas retirer notre consécration pour autant. Alors, on voit dans une grande foule, un petit groupe minoritaire qui avait tout donné, qui avait tout mis aux pieds des apôtres, qui avait tout mis aux pieds du maître pour dire « Me voici, Seigneur ». Je réalise que les gens ne sont pas tous appelés, on pourrait dire, au même degré pour l'évangélisation. C'est-à-dire que pas tous sont appelés à aller vers les nations, pas tous sont appelés à aller vers les foules, mais tous nous sommes appelés à témoigner. Tous nous sommes appelés ici, autant les grands comme les plus jeunes, les plus âgés. Nous sommes responsables, si on veut avoir le battement du cœur de Dieu, si on veut connaître son cœur, nous sommes responsables de faire connaître Jésus à nos voisins, dans les supermarchés, à l'école, dans les parcs, peu importe la situation, peu importe où nous sommes, nous avons la responsabilité. Ça pèse sur nous parce qu'un jour, leur sang va nous être demandé. On va rendre compte pour les âmes qui nous entourent, qu'on aura pu si facilement des fois leur parler de Dieu, puis par intimidation, par manque de temps, par ci, par ça, peu importe la raison qu'on va donner. Un jour, ça va nous être redemandé, on va devoir rendre compte pour ces âmes-là. Alors qu'on soit appelé à aller vers les masses, ou qu'on soit appelé à témoigner dans notre petite Jérusalem, notre Samarie, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, peu importe, vous et moi, nous avons un devoir de faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait peut-être longtemps que le Seigneur vous parle puis il vous dit « Suis-moi, suivez-moi » comme il a fait avec les disciples. Il n'a pas demandé des grands critères, il n'a pas exigé de grandes choses d'eux. Il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc, la force vient de lui. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est notre disponibilité, notre obéissance et notre consécration. Le reste, c'est lui qui va le faire. Les autres ne se sont pas cassés la tête. Comment je vais faire là pour changer de métier, si on pourrait dire. Tout ce que j'ai connu, c'est ramasser des poissons dans un filet. Là, il me dit là, qu'il m'envoie vers les gens pour être un pêcheur d'hommes. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais ils dépendaient sur lui, sur sa puissance. Alors, posons-nous sérieusement la question ce matin. Sommes-nous disponibles? Voulons-nous être obéissants? Sommes-nous voulants, comme on a dit? Ça va demander une consécration. Parce que de nous-mêmes, on n'est pas capable de faire ces choses-là. Mais ça peut faire un bout de temps que le Seigneur deal avec vous, qui vous parle à votre cœur et vous dit « Suis-moi ». Puis on résiste, on a peur. On a peur de l'inconnu. On veut pas tout mettre à ses pieds. On peut pas le suivre tant qu'on le suit pas de tout cœur. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Dans le monde, ici, on voit comment que les gens, c'est brusque. On va imposer des choses sur les gens. Tu veux pas, tu vas y aller pareil. Puis il y a les menaces, il y a le terrorisme derrière tout ça et toutes ces choses-là, qui fait que même si on veut pas faire quelque chose, on a tellement peur, ils vont nous faire passer par là pareil. Ça, c'est le système du monde. Mais n'attendez pas que le Saint-Esprit va vous pogner par les oreilles pour vous emmener quelque part. Il ne le fera jamais. C'est un gentleman. Il va vous donner dans votre cœur le goût. Il va mettre l'appel, là. Il va dire, suis-moi. C'est à vous et à moi de répondre après ça. Parce que lui, il ne pousse personne. Il ne force personne à le suivre. Il ne force personne à le servir. Alors, ça fait longtemps que le Seigneur t'a prêt à dealer dans vos cœurs. T'a prêt à travailler dans votre cœur. Puis il dit, suivez-moi. Ce ne serait pas le jour aujourd'hui de laisser tout fardeau de côté, toute chose qui vous embarrasse, toute chose qui vous empêche de le suivre, de me voici, Seigneur. Alors, si l'équipe de louange peut venir, s'il vous plaît, je vais vous inviter à vous lever. Et puis, on va laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs ce matin. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de consécration. C'est un message important de répondre à la voix du Maître qui dit, suis-moi ce matin. Suivez-moi ce matin et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, c'est important. On va fermer nos yeux. Levez-vous dans la présence du Seigneur. On révèle sa présence parce qu'il est ici ce matin. Le Seigneur est ici ce matin pour rencontrer nos besoins. Il est ici ce matin pour nous aider à accomplir ce qu'on n'est pas capable d'accomplir dans nos forces. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est Dieu. Alors, on laisse le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Tu peux jouer, là. On apprécie beaucoup une belle musique de fond. Ça nous aide à vraiment. Parce que le Seigneur, il siège au milieu des louanges de ses enfants. Alors, dans la louange, fermez vos yeux, puis on consacre nos cœurs au Seigneur ce matin. Père éternel, on te donne le droit, le privilège, Seigneur, de sonder nos cœurs ce matin. Seigneur, on met tout devant toi ce matin. On se met sur l'autel, Seigneur, ce matin. Esprit, âme et corps, Seigneur Dieu. Ta parole dit, Seigneur, qu'on vit pour celui qui nous a rachetés. On ne t'appartient pas nous-mêmes, Seigneur, mais on appartient à celui qui nous a rachetés. Seigneur Dieu, nous sommes crucifiés à nous-mêmes, crucifiés à nos désirs, crucifiés, Seigneur, à tout, puis on vit pour toi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur, pour ta vie que tu as mis en nous. Ton esprit, Seigneur Dieu, ta nature. On veut que tu sors nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu. Pour que, Seigneur, nous ayons le battement de ton cœur, Père éternel. Pour que, Seigneur, la chose qui compte la plus dans nos vies, que c'est que nous soyons des gagneurs d'âmes, Seigneur Dieu. Nous sommes conscients qu'il y a un monde ici même à Drummondville, Seigneur Dieu. Nos voisins qui sont perdus, sont en route pour l'enfer, à moins qu'ils te connaissent, Seigneur Dieu. Et le mandat, c'est à nous, l'Église, que tu l'as donné. Alors, Seigneur, oui, on veut dire, me voici, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu sens nos cœurs. C'est des choses qu'on retient, Seigneur, pour nous-mêmes. Ce matin, on les met à tes pieds, Seigneur Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il veut tous nos talents. Il y en a de vous que ça va être dans la prière, Seigneur. Dieu, que ceux que tu as appelés à la prière pour, Seigneur, pour d'être en arrière des moissonneurs, ceux qui vont au front. Seigneur Dieu, qui puisse dire ce matin, quand le Seigneur t'appelle, suis-moi. Vous allez répondre, vous allez dire, oui, je vais consacrer du temps dans la prière pour ceux qui sont au front. Et il y en a de vous que c'est par vos finances. Le Seigneur vous appelle à soutenir par vos finances. Alors le Seigneur va dire, est-ce que tu veux me suivre ce matin? Vous allez répondre, oui, Seigneur, je te suis. Le Seigneur vous dit, suis-moi. Alors peu importe ce que le Seigneur vous demande, sondez vos cœurs. Faites certain ce matin qu'il n'y a rien qui vous retient, qu'il n'y a pas de la haine, qu'il n'y a pas de l'orgueil, qu'il n'y a pas l'amour de la vie, plus que les choses de Dieu. Alors on sonde nos cœurs, on te laisse sonder nos cœurs, Esprit Saint, ce matin. On veut faire certain, Seigneur, que tous nos trésors, tout notre temple au complet, Seigneur, est à tes pieds ce matin. Seigneur, afin que tu puisses parler au cœur des gens ce matin ici. Ceux, Seigneur, qui ont peut-être hésité, qui ont peut-être été, Seigneur, dans le passé, ils ont suivi, mais ils ont arrêté en cours de chemin. Un matin, tu veux restaurer, Seigneur. Tu veux restaurer les cœurs. Tu veux restaurer la communion avec toi, Seigneur Dieu. Alors on te dit, oui, me voici, Seigneur. Prends-moi, utilise-moi pour la gloire de ton nom, pour élever ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons, car c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, Seigneur, selon ton bon plaisir.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.